Bonjour Mariam Touzani. Alors comme première question, je voulais vous demander de vous présenter en tant que personne qui a décidé de s'investir dans le cinéma en tant qu'actrice et en tant que réalisatrice.
Je suis quelqu'un justement qui a décidé depuis quelques années de commencer à écrire, à réaliser, à raconter mes propres histoires. C'est-à-dire tout ça est venu, tout ça est né d'une manière assez spontané, je dirais, avec mon premier court-métrage, qui était un court-métrage qui parlait de la mort et que j'ai écrit suite à un décès qui m'avait bouleversé. Et donc c'est comme ça qu'est né mon besoin d'expression à travers le cinéma. Et derrière, ça a continué, ça s'est prolongé, ça a pris d'autres formes. J'avais réalisé des documentaires avant, j'ai continué à réaliser d'autres documentaires derrière. J'ai écrit les scénarios de mes courts-métrages évidemment, mais aussi le scénario de Razia, qui est un film réalisé par Nabil Ayouch. Donc on a coécrit ensemble son scénario. C'est un film dans lequel j'ai joué aussi. On a écrit un personnage que j'étais pas censée interpréter, mais j'ai fini par interpréter. Mais en même temps, il y avait quelque chose de très intéressant, de très beau à vivre dans la prolongation quelque part de cette expression qui passait d'abord par l'écriture et puis qui ensuite a pris une autre dimension qui était celle du jeu. Donc c'était une exploration assez particulière de ce personnage-là que j'ai vécu à travers ce film aussi. Et puis derrière, il y a eu le film Adam, qui est mon premier long métrage de fiction, qui est un film que j'ai écrit vraiment par besoin d'exprimer des choses que je ressentais, que j'ai ressenties de manière très très forte.
C'est un film intimiste. C'est la vie qui amène deux femmes à se rencontrer, à se rassembler. Ces femmes semblent chacune punies par la vie, au fait. Et puis la vie reprend le dessus. C'est pour ça que moi j'y vois vraiment une ode à la vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Je suis complètement d'accord avec ça, justement. J'ai voulu en faire une ode à la vie. Moi, je pense que quand on est puni, comme vous dites, par la vie, ça ne veut pas dire pour autant que la vie n'est pas là, et que c'est pas une expression de la vie dans sa forme la plus forte, la plus puissante, qui parfois peut être aussi la plus cruelle, justement, parce que là, il y a deux femmes, donc l'une d'elles est veuve, et la Il a vécu ce qu'il y a de plus dur à vivre, c'est-à-dire la perte d'un être aimé. Et donc, elle a été mise face à la vie dans ce qu'elle a de plus cruel à offrir. Et de l'autre côté, il y a cette jeune femme enceinte qui arrive de la campagne, qui essaye de se débarrasser de cet enfant qu'elle porte une fois qu'elle aura accouché pour pouvoir revenir et recommencer à nouveau. Donc, c'est cette naissance, justement, qui est une des choses les plus belles de la vie, qui, dans son cas, devient une des choses les plus dures à vivre. Et moi, je pense que c'est ça la vie, c'est ce mélange de beauté, de cruauté, en tout cas de vérité, qui fait que chaque jour soit tellement, tellement, tellement intense, si on s'arrête et qu'on le ressent réellement.
Je voulais quand même revenir sur le choix du titre, qui est donc un nom, qui n'est pas anodin, donc c'est Adam. Et d'où vous est venue l'idée?
Alors pour moi, c'était une évidence que ce bébé, que ce titre de film allait être Adam. Parce que cet enfant qui naît dans le film est un Adam, dans le sens où il représente aussi ce que Adam peut représenter à mes yeux, c'est-à-dire ce premier homme. Et je pense que si on revenait à la source, si on revenait à la genèse, si chaque homme prenait conscience réellement qu'il avait été enfanté par une femme, qu'il avait été porté par une femme pendant 9 mois, je crois qu'on aurait une manière différente de vivre et de voir les choses. Ça d'un côté. Et puis aussi, parce que en arabe, en marocain, en courant, quand on dit bnadem, ça veut dire fils d'Adam. Et quand on dit ce bnadem, par exemple, ça veut dire cette personne, cet être humain. Et pour moi, cet enfant qui naît dans ce film est avant tout un être humain, même s'il n'est pas traité comme un être humain. parce qu'il provient justement du ventre d'une mère qu'il a eue hors mariage. Voilà. Et donc, pour la plupart des gens, c'est un enfant honni. C'est un enfant qu'il faut mettre au banc de la société. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est non. Cet enfant-là qui est né, c'est un être humain avant toute chose. On s'en fout d'où il vient. C'est pas ça. Ça nous intéresse pas. Ce qui compte, c'est le présent de cet enfant et c'est l'avenir de cet enfant-là. Et c'est qu'il ait le même droit à la dignité, à la vie que n'importe quel autre enfant.
C'est très beau. Alors, ma prochaine question, en fait, parle du courage. Votre film parle beaucoup du courage qu'il faut avoir. Mais alors, il y a vraiment, moi, je vois d'abord le courage qui est vraiment lié à la douleur, à ce qui leur arrive et au fait de cette jeune fille qui, à cause des codes de la société, décide d'abandonner l'enfant. Donc, il faut du courage pour ça. Mais est-ce que c'est vraiment ça, l'acte courageux ? Et vous venez y mettre beaucoup d'espoir et d'aller plus loin. Et donc, je crois que, enfin, moi, ce que je vois, c'est que le courage, il est encore un cran plus loin, en fait. Pouvez-vous me parler de ça aussi ?
Si, le courage est difficile à définir, justement. Est-ce que c'est courageux d'abandonner son enfant ou est-ce que c'est courageux de le garder ? La question est là réellement pour Samia, parce qu'on aurait pu se dire que garder cet enfant est un acte de courage. Et pour un moment, elle le pense, mais après, garder cet enfant est aussi peut vouloir dire le contraire, parce que l'abandonner est un sacrifice qui est courageux aussi, quand on l'abandonne pour qu'il puisse avoir un avenir. Et ça demande un autre genre de courage. Et justement, c'est pour ça que je dis que le courage est très difficile à définir. Mais c'est vrai que Adam est un film sur le courage aussi, et c'est un film sur qui parle de femmes courageuses, parce que Abla a été quelque part maltraitée par la vie, et pourtant c'est pas une femme qui se plaint, c'est une femme qui bosse dur, même si elle n'arrive pas à affronter sa douleur, même si elle s'est coupée de sa fille et de ses émotions. C'est quand même une femme qui se bat pour survivre, pour subsister dans un milieu patriarcal, difficile. Elle ne demande de l'aide à personne. Elle ne se plaint jamais. Et puis, cette femme qui arrive chez elle, enceinte de 8 mois, est quelque part très proche d'elle dans son sens du courage. Parce que jamais on l'entend se plaindre. Elle n'est pas une victime, alors qu'elle aurait pu être une victime de sa société. Et quelque part, elle l'est, mais elle n'accepte pas d'être victime, justement. Elle vit ça autrement, elle vit ça avec du courage. Jusqu'au moment où tout se transforme et qu'elle est mise face à elle-même et face à cette vie qu'elle porte. Mais en tout cas, c'est un film où j'ai eu envie de montrer des femmes fortes, des femmes qui se battaient, parce que je pense qu'il y a tellement de femmes courageuses dans ma société. Là, je parle du Maroc, mais des femmes courageuses qui se battent beaucoup de fois en silence, des femmes qu'on ne voit pas, auxquelles j'ai envie de donner une voix, justement, parce que je pense qu'elles sont exemplaires.
Oui, oui, tout à fait. Et vous leur rendez très joliment hommage. Et donc, plus loin, en fait, il y a un échange de deux phrases qui m'ont particulièrement percuté dans le film. C'est Abla, à un moment, elle dit « La mort n'appartient pas aux femmes ». Et Samia répond « Peu de choses nous appartiennent vraiment ». Voilà, c'est terrible, en fait, hein. C'est poignant. Et un peu plus tôt dans le film, en fait, il y a aussi une espèce de petite incitation qui dit aux femmes « on s'unit et on fait la grève pour la farine ». Et donc, je me dis, il y a quand même une volonté chez vous à dire aux femmes « allez, on s'unit, hein, on arrête d'être seules parce que ça nous fragilise ». Et voilà, jusqu'où c'est une volonté de plutôt être solidaire, ou alors est-ce que vous avez vraiment une volonté d'aller à la révolte, quoi?
Non, mais c'est tout à fait ça. Moi, je pense que c'est cette solidarité féminine qui peut nous aider vraiment à aller de l'avant et à faire changer les choses et à faire changer les lois et à faire avancer la société. Je pense qu'on est très très fortes ensemble, mais que si chacune reste dans son petit coin et qu'elle se bat mais toute seule dans l'ombre, et que justement, et qu'il n'y a pas cette entraide, qu'il n'y a pas cette conscience de l'autre aussi et des fragilités de l'autre, je crois que ça va être très difficile de faire changer les choses pour nous. Donc pour moi, c'est très important que les femmes puissent prendre conscience de ça, parce que je pense vraiment qu'unies, on a une force mais incroyable, incommensurable. Je pense que si on mesurait la force qu'on a réellement, on se réveillerait quelque part et on agirait de manière à faire les choses ensemble et à avancer ensemble. Et justement, comme cette petite phrase sur la farine, bah oui, c'est ça. C'est si les femmes décident d'aller manifester, eh ben oui, les choses changeront. Elle le dit en rigolant, mais c'est vrai au final, parce que c'est elles qui travaillent la pâte, c'est elles qui font le pain, donc finalement, ils ne pourront que les écouter. Et puis cette autre phrase, donc sur le toit par rapport à la mort, que dit Abla quand elle dit que la mort n'appartient pas aux femmes, moi ça c'est une des choses qui me révolte le plus, qui me scandalise le plus et que j'ai envie quand même de pouvoir de pouvoir exprimer. Pour moi, c'était très important de le faire à travers le personnage de Abla, parce que justement, Abla est une femme qui est restée figée dans le passé, qui est restée figée dans le temps, qui n'a pas réussi à faire le deuil de son mari, qui n'a pas réussi à faire face à sa perte, parce qu'elle n'a pas pu vivre sa douleur comme elle l'aurait voulu, parce qu'on lui a arraché son mari quelque part, parce que la société décide que les femmes ne vont pas au cimetière. On va au cimetière le troisième jour chez nous, même si c'est pas dans les textes religieux, ça n'a absolument rien à voir avec la religion, mais c'est une chose qui est acceptée, qui est intégrée dans l'esprit des gens et que personne n'ose questionner. Et celle qui en souffre, eh ben c'est les femmes, parce que si une femme n'a pas le droit d'aller enterrer un mari, une fille, un fils, une mère, c'est-à-dire pas parce qu'elle ne veut pas, ou parce qu'elle décide de faire autrement, mais parce qu'on décide à sa place, justement. On décide que non, qu'elle est trop fragile, qu'elle est trop faible, qu'elle va piquer une crise de nerfs et qu'elle ne supportera pas, donc il vaut mieux qu'elle reste à la maison. Et ça, moi, c'est une chose qui me rend dingue. J'ai envie de dire non. Moi, je connais tellement, tellement peu de femmes qui ont osé aller au cimetière le jour d'un enterrement. Et j'en connais, en fait, j'en connais pas réellement. J'en connais, c'est-à-dire j'ai entendu parler de certaines femmes qui ont brisé ce tabou-là. Mais aucune que je connaisse personnellement. Et quand même, je veux dire, si encore aujourd'hui, on ne peut pas faire ça, on peut plus se taire sur des choses comme ça. Il faut qu'on réagisse, justement. Il faut qu'on dise non, qu'on dise basta. On ne peut plus accepter ça.
Je suis la première à vous remercier parce que je ne savais pas. Je suis assez étonnée d'apprendre ça et... libérons la parole.
Oui, mais ce sont des choses qu'on accepte en silence et c'est des choses qu'on souffre en silence, justement, parce que quelle plus grande souffrance que celle de la mort, que celle du déchirement de l'être aimé, mais devoir subir en plus de ça les choix d'une société, c'est indescriptible. Et moi, j'ai vu ça. Moi, j'ai vu ça, j'ai vécu ça. Moi, entre-temps, entre le moment où... Parce que cette histoire est inspirée d'une rencontre réelle avec une jeune mère célibataire. Mais 17 ans après, donc, j'ai écrit, réalisé ce film en devenant mère. Mais entre-temps, j'avais perdu mon père aussi. J'avais perdu mon père. Et il y a des choses que j'ai vécues, que j'ai vues, que j'ai compris aussi par rapport à ça, par rapport à la mort. Et je peux vous dire que voilà, qu'il y a des choses qui demandent beaucoup, beaucoup de courage chez nous.
Eh bien, je trouve que c'est courageux de votre part de le dire, déjà. Vous avez des répercussions parfois sur ce que vous dites, ce que vous...
Oui, parfois, bien sûr, il y a des gens qui sont pas d'accord. J'ai des gens qui n'ont pas envie de remettre justement en question certaines choses parce que c'est tellement ancré dans leur esprit, parce que ça a été voilà, c'est quelque chose qui est transmis quelque part de génération en génération. Et le plus terrible pour moi, c'est que je pense que la femme est vraiment un élément clé dans la transmission. Et beaucoup de fois, les femmes continuent à transmettre ces choses-là, inconsciemment, parce qu'elles ont grandi comme ça, elles acceptent ça comme une vérité, et derrière, eh ben, elles continuent à transmettre. Et c'est justement cette transmission qu'il faut remettre en question aussi. Qu'est-ce qu'on transmet et qu'est-ce qu'on arrête de transmettre? Et qu'est-ce qu'on remet en question? Et voilà, donc, Mais c'est pour ça aussi que c'est un film qui est beaucoup sur la transmission. Il y a la transmission de cette pâtisserie, donc qui arrive, qui est quelque chose de très ancien dont j'ai eu envie de parler, parce que je pense qu'il y a des choses qui ont à voir avec notre culture, avec notre identité, qui sont belles et qu'il faut préserver. Après, il y a d'autres choses qu'il faut quelque part questionner, bousculer. C'est-à-dire la tradition est belle à partir du moment où elle ne vient pas nous brider.
Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de sensualité dans votre film. Donc, entre la douleur et la joie de vivre, il y a vraiment, ça se dégage. Il y a plusieurs scènes, mais notamment celle où elle pétrisse la pâte. Donc, justement, vous me parlez des pâtisseries. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très charnel qui se passe. C'est très agréable, en plus, de pétrir la pâte, c'est vrai. Et en fait... Ce que moi je vois en général, c'est que la sensualité, elle peut vite déranger, comme si c'était une atteinte à la pudeur ou à la bienséance, alors que j'ai envie de dire la sensualité, c'est aussi la vitalité. Voilà, j'avais envie d'avoir votre avis.
Mais complètement, c'est la vitalité et puis c'est le ressenti, c'est de pouvoir vraiment ressentir les choses, de pas rester à la surface. Et cette pâte qu'on pétrit, oui, vous dites c'est un très beau geste que de pétrir la pâte, mais c'est un beau geste à partir du moment où on le ressent, parce qu'on peut pétrir la pâte sans la pétrir réellement, en étant absent. Et c'est ce qui se passe aussi chez Ablin, parce que c'est une femme qui n'est plus dans son corps presque. C'est une femme qui est devenue quelque part un fantôme dans sa propre maison, dans son propre corps. Et donc pétrir cette pâte, mais vraiment recommencer à la pétrir est une manière pour elle de renouer avec elle-même, d'aller redécouvrir, se redécouvrir à travers qu'est un geste charnel, sensuel, physique. Et c'est vrai que ça peut faire peur aux gens parfois, parce que cette sensualité, pour beaucoup de gens, révèle d'une sexualité et ça peut déranger. Moi, on m'a demandé ça aussi, s'il y avait quelque chose de sexuel dans le geste. Et moi, je dis toujours la même chose. Non, c'est quelque chose de sensuel. Et c'est très différent. Parce que quand on est dans un ressenti, dans une sensualité, ça veut dire qu'on est à l'intérieur de son geste, qu'on le vit pleinement. Et j'avais vraiment envie de pouvoir justement raconter cette femme, raconter son évolution, raconter sa redécouverte d'elle-même à travers sa redécouverte de cette pâte aussi, qui quelque part lui est apportée par cette jeune femme qui rentre chez elle, qui va l'aider à transformer sa vie, qui va l'aider à se regarder vraiment dans les yeux à nouveau, à se redécouvrir femme aussi. Ce qui est très important.
Oui, oui, tout à fait. Non, c'est très émouvant de voir cette évolution chez Abla. C'est fou de voir comment vous arrivez à... Enfin, moi, je trouve que le film arrive, grâce à la lumière, je pense aussi, à redonner vie, en fait, à tout ça. Et justement, je vais parler de la lumière, parce que dès que j'ai commencé, dès que le film a commencé, pour moi, j'ai vu Vermeer. Et c'est Vermeer à Casablanca, c'est très très beau. Mais alors ce qui m'a vraiment étonnée, c'est qu'au fur et à mesure que le film, le récit évolue, je me suis vraiment dit, mais il se passe quelque chose avec ces pâtisseries, elles ont l'air de plus en plus appétissantes. Et je me suis dit, mais comment c'est possible?
Justement, je pense que c'est la lumière aussi, c'est la manière dont on a travaillé avec Virginie Surdège, qui a été la chef opératrice sur le film, qui a fait un travail extraordinaire sur la lumière, sur l'image, avec laquelle on a beaucoup parlé des personnages, des scènes, de comment raconter ces femmes-là, justement, comment accompagner leur évolution à travers cette lumière, comment raconter cet espace aussi, cette maison, parce que c'est un presque huis clos, le film. Donc, comment cet espace allait aussi changer, se transformer au fur et à mesure avec cette lumière qui devenait de plus en plus pénétrante et qui allait les illuminer différemment et les révéler autrement, justement. Les révéler au spectateur, mais les révéler à elle-même. Donc, comment créer cette évolution-là à travers la lumière? Il y a eu vraiment une grande réflexion avec Virginie, justement, et on a pris beaucoup de plaisir. On a pris vraiment beaucoup de plaisir à travailler chaque scène avec la lumière qu'on imaginait justement pour accentuer certaines choses, pour mettre en exergue des émotions aussi, à travailler on a beaucoup travaillé sur des gros plans pour accompagner ça aussi, parce que J'avais envie de pouvoir, quelque part, pénétrer à travers des petits gestes, justement, à travers des gestes qui peuvent sembler très anodins, pénétrer l'âme de ces personnages-là, aller creuser sous leur peau, essayer de faire jaillir, justement, cette vérité à l'écran. Et encore une fois, avec Virginie Surdège, et aussi avec Pilar Peredo, qui était la chef décoratrice sur le film, qui pareil, a fait un travail extraordinaire. Et toutes les trois, on a vraiment... donner cette direction-là, qui c'est vrai, où c'est vrai qu'il y a cette inspiration des grands peintres comme Vermeer, Caravage, Delatour, qui sont des peintres qui m'ont beaucoup beaucoup inspiré, que j'ai toujours vraiment, qui m'ont marqué, et je me suis rendu compte à quel point après ils étaient présents dans tout ce qu'on avait fait, à travers les couleurs aussi, le choix des couleurs, des textures, des cadres. Donc oui, il y a un grand moment de bonheur sur le travail autour de l'image et autour de la lumière et de la décoration dans le film.
Oui. Je pense que ça doit se ressentir. En fait, ça se ressent, je crois, quand une œuvre d'art, quand l'auteur l'a fait avec goût, avec plaisir. Et je pense que là, ça se ressent chez vous.
Et puis, ce qui était beau aussi, justement, c'est de pouvoir la faire avec plaisir, comme vous dites, mais d'avoir, justement, d'être alignée avec Virginie, avec Pilar, et d'avoir, c'est-à-dire qu'on soit toutes les trois, qu'on partage la même vision des choses. Ça, c'était très, très beau comme expérience à vivre aussi, d'avoir ce partage aussi par rapport parce qu'au final, c'est une écriture, c'est un scénario, mais moi, j'ai toujours imaginé tout de manière visuelle. C'est-à-dire, il y a toujours eu quelque chose de très visuel quand j'écrivais. Pareil, dans les couleurs et dans la manière où les personnages étaient filmés et tout ça, qu'on a pu justement matérialiser ensemble, les trois.
Tout en étant dans une économie, une sobriété qui rend ça très subtil aussi, en fait.
Oui, c'est-à-dire être dans une économie, c'est vraiment, je pense, le mot juste, parce que j'avais envie de laisser parler les silences, être dans une économie de mots, de laisser parler la vie quelque part sans mettre de mots dessus, d'être justement dans un ressenti au lieu d'être dans une explication, de pouvoir aussi imposer un rythme par moment, de pouvoir arrêter cette caméra et voilà, et juste vivre les scènes, mais les vivre de l'intérieur, avec une caméra très proche des corps, très proche des personnages, sans jamais être intrusive, juste comme si elle s'effaçait réellement, mais véritablement de pouvoir prendre le temps là où je sens que parfois tout va trop vite. Et justement, ce travail de la pâte aussi, ce travail de l'arziza nécessite ça aussi, demande ça, cette arziza qui n'est plus faite, qui n'existe plus, justement parce qu'elle demande trop de temps, parce que trop laborieuse, et qui est remplacée petit à petit par une arziza à la machine, et qui devient quelque part obsolète avec le temps. Et c'est justement ça pour moi aussi, c'est de pouvoir s'arrêter pour ressentir ce que ces femmes ressentent, et vivre l'histoire autrement, à travers un autre rythme.
Parlant de temps, j'ai encore deux petites questions. Oui, il y a la petite fille, Warda.
Oui.
En fait, elle est très très importante aussi.
Oui.
En fait, sans elle, il n'y avait rien. Je me demande jusqu'où c'est vous.
C'est vrai qu'il y a quelque chose qui nous lie vraiment, Warda et moi. Mais c'est quelque chose que... Voilà, les petites filles, c'est vrai qu'elles reviennent dans tous mes films. Mes deux premiers courts-métrages, les personnages principaux, c'était des petites filles. La première avait 8 ans, la deuxième avait 12 ans. Et là, Warda, pareil, a 8 ans. Il y a ce côté très enfant en moi, très petite fille en moi, qui reste très vivant et que, inconsciemment, revient toujours dans mes films, parce que je pense que les enfants ont quelque chose ont une vraie lucidité, ont une vraie clairvoyance, une vraie intelligence de la vie, une liberté aussi, une liberté émotionnelle que nous adultes n'avons plus, parce qu'on sait ce que c'est que la vie, que la pression sociale, que toutes ces choses-là qui quand même viennent nous empêcher parfois d'être qui on est, de faire les choses qu'on a véritablement envie de faire et d'aller vers l'essentiel. Et les enfants n'ont pas de filtre déjà, pas de barrière, ils savent pas ce que c'est, ils sont encore innocents et leur innocence fait leur force. Et c'est pour ça aussi que Warda est là. Et c'est vrai que quelque part, Il y a cette petite Warda qui est vraiment très vivante à l'intérieur de moi.
Et bah justement, je vais clôturer avec... moi, je prononce moins bien que vous, mais avec la note musicale, parce que vous rendez hommage à une grande chanteuse algérienne quand même. Et je voulais savoir comment elle s'est mise dans le film et le choix de la chanson.
Oui, je pour être tout à fait honnête avec vous, je ne sais pas comment elle s'est mise dans le film, parce que je sais qu'un jour, je me suis réveillée et elle était là. Dans ma tête. Et moi, je connaissais Warda évidemment bien, comme tous les gens, je pense, comme tous les Marocains, tous les gens Algériens, Tunisiens, on connaît tous Warda évidemment. Mais en même temps, je n'avais jamais vraiment écouté sa musique. Et là, il y a cette chanson, je ne sais pas à quel moment de ma vie elle est venue s'inscrire dans mon inconscient, mais un jour, je me suis réveillée avec ça. Et donc, je l'ai écoutée. Et c'était juste une évidence, parce que les paroles de cette chanson, j'avais l'impression qu'elles avaient été écrites pour Ablin, parce qu'elle racontait sa douleur, elle racontait cette absence, justement, cette absence de l'être aimé, la beauté de cette absence, mais la dureté de cette absence aussi. Et je trouvais ça tellement fort, tellement puissant, et tellement en lien avec elle et avec ce qu'elle ressentait, que voilà, au début j'ai même pas pensé, je me suis juste retrouvée à l'écouter en boucle constamment. Je me rappelle, j'étais en fait enceinte quand j'écrivais mon scénario, et je me rappelle très bien, j'étais enceinte de 7-8 mois, il y avait cette chanson tout le temps dans mes casques, je marchais, je l'écoutais, et c'était et voilà. Et donc elle s'est retrouvée dans mon scénario avec cette petite fille aussi qui s'appelait Warda. Et il y avait une raison évidemment pour qu'elle s'appelle Warda dans le film, la petite. Mais vraiment, voilà, il y a des choses, je pense, il y a parfois des choses qu'on choisit et des choses qui nous choisissent. Et là, je peux dire que je crois que c'est Warda qui a choisi, c'est cette chanson qui m'a choisi. Moi, j'ai été réceptive.
Ben, c'est super. Comme note de fin, voilà. Je ne sais pas si vous avez envie d'ajouter quelque chose.
Ah, je sais pas, je suis pas bonne pour ajouter des choses, mais pour revenir à ce qu'on disait, oui, il y a des choses qui qu'on choisit, il y a des choses qui nous choisissent. Et moi, ce film, il n'y a pas eu un moment où je me suis posée, que je me suis dit, ben, je vais écrire cette histoire, je vais écrire une histoire de femme, je vais écrire ces personnages-là concrètement. Je savais pourquoi j'écrivais le personnage de Samia. Parce que, voilà, avec cette rencontre qui m'avait bouleversée, et puis ma grossesse, mais par exemple, pour le personnage de Abla, je ne savais même pas pourquoi il était là au début. C'est beaucoup plus tard que je me suis rendu compte pourquoi je l'avais écrit. Et puis avec la petite aussi, c'est plus tard aussi que j'ai créé le lien entre moi-même et cette petite, entre cette petite et ces deux femmes. Mais comme quoi, ce que j'ai envie de dire, c'est que parfois, c'est très beau de créer de manière consciente et rationnelle, mais parfois, c'est très beau aussi juste de se laisser porter par la vie, de se laisser porter par ses émotions. Et ce qui a été très beau pour moi aussi dans ce film, c'est de me laisser porter par toutes ces choses que je ressentais, et d'écrire justement de manière instinctive, sans me poser de questions, sans savoir forcément où j'allais, sans savoir où les personnages m'emmenaient, et de me retrouver avec cette histoire qui petit à petit se construisait.
Bah c'est beau, je pense qu'en effet vous avez cette capacité à accueillir, peut-être que vous avez vraiment une facilité avec la narration, la fiction. Vous êtes sur un autre projet déjà, ou en tout cas vous envisagez?
Si, justement, je pensais pas que j'allais l'être, mais je me suis retrouvée à écrire, comme ça, sans y avoir réfléchi, mais en même temps, quand Adam est finalement sorti, quand le film s'est terminé, je crois que ça a laissé de la place à l'intérieur de moi pour d'autres choses qui étaient là, qui étaient présentes, qui se chamboulaient, qui cherchaient à s'exprimer, et qui pour certaines étaient là de manière consciente depuis quelques années, et d'autres que j'ai commencé à découvrir au fur et à mesure. Et donc je me suis retrouvée à écrire, et c'est un vrai bonheur. J'adore ça, j'adore cette période-là, parce que justement j'adore me laisser porter, j'adore vivre avec mes personnages, et je les vis de manière très intense en fait à l'écriture. Je les vis vraiment de manière très intense, tellement intense que parfois c'est perturbant, mais j'aime ça.
Ah ben tant mieux. Alors je peux que vous souhaiter de continuer. J'aurais hâte de voir vos prochains films, et en tout cas, j'encourage tout le monde à aller voir Adam, parce que j'ai trouvé que c'était un très beau film. Merci beaucoup.
Merci à vous.